Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Maïlys Besri, bonjour à tous. La France a-t-elle fait elle-même transférer des djihadistes français depuis la Syrie où ils ont été arrêtés vers l'Irak, provoquant ainsi leur mise à mort? L'ONU pose la question aujourd'hui par la voix de sa rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Callamar. Nous ferons le point avec Wilson Fash, notre correspondant à Erbil en Irak. Plus de 5000 manifestants rassemblés à l'aéroport international de Hong Kong pour demander plus de démocratie. Vols et départs ont été annulés. De son côté, Pékin affirme voir des signes de terrorisme dans cette contestation qui s'exprime depuis plusieurs mois. Explication à suivre de notre correspondante Angélique Forger. En Italie, alors que les jours du gouvernement semblent compter depuis la crise ouverte par Matteo Salvini, les troupes du mouvement 5 étoiles, anciennement alliées à Salvini, se sont rassemblées ce matin. Les chefs de groupe au Sénat doivent se réunir pour aborder la question dans l'après-midi. Décryptage à suivre avec notre correspondant Antonino Gallofaro. Au programme de la grande table d'été, Maïlys Besri.
On va parler de filmer l'espace autour du documentaire Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros, puis nous ferons le portrait de la comédienne Léa Drucker.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La question est brûlante. La France a-t-elle donc illégalement organisé le transfert de djihadistes français de la Syrie vers l'Irak où ils ont ensuite été condamnés à mort? Cette question, ce sont les Nations Unies qui la posent. Au début de l'été, 11 Français qui avaient rejoint le groupe État islamique avaient été condamnés à la peine capitale à Bagdad. Parmi eux, Kevin Gono, figure connue du djihadisme français parti en Syrie en 2013. La rapporteure spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, Agnès Callamar, s'interroge sur ces transferts Syrie-Irak. Elle a adressé un courrier au gouvernement français. Les explications de Wilson Fash.
Agnès Callamar dénonce le transfert illégal de ces 11 djihadistes français. Parmi eux, Kevin Gono, figure connue du djihadisme français. Parti en Syrie en 2013, il a été arrêté avec son demi-frère, sa mère et son épouse. Des combattants qui, selon elle, ont été extradés de Syrie vers l'Irak grâce au soutien actif ou passif des autorités françaises. Une démarche, dit-elle, contraire à la justice la plus élémentaire.
Où est le processus de justice? Où est le processus de vérité? Si la France a été impliquée dans ces transferts, elle a violé une norme absolue en droit international qui est qu'un État qui a aboli la peine de mort ne peut en aucun cas transférer un individu dans un pays où la peine de mort continue d'être pratiquée.
Plusieurs de nos sources en Irak et en Syrie corroborent l'hypothèse d'une implication directe de la France dans ce transfert. En Syrie, une juge kurde accepte de se confier anonymement. « Nous ne voulions pas du transfert de ces djihadistes français vers un pays qui condamne à mort », nous dit-elle. C'est la France et la coalition qui ont organisé et commandité cela. Maître Nabil Boudi est l'avocat de 7 de ces Français transférés en Irak. Il espère en savoir davantage sur le rôle de Paris, qui a toujours refusé de rapatrier les djihadistes français pour les juger. Il dénonce des procès inéquitables.
Un procès expéditif, ça signifie qu'il n'y a pas de procès, justement. Comment ça s'est matérialisé en Irak pour les ressortissants européens? Des audiences qui ont duré 20 minutes pour chaque accusé. Des avocats commis d'office qui n'ont pas eu accès au dossier. Et des avocats français qui ont été empêchés. On a été entravés, nous, dans notre travail. Les délibérés ont duré entre 1 à 3 minutes pour chaque accusé. Ce qui signifie que les décisions étaient déjà prises à l'avance.
Nabil Boudi fait d'ores et déjà savoir qu'il est en relation avec d'autres avocats de Belgique, d'Allemagne ou encore du Royaume-Uni pour travailler ensemble sur la question des djihadistes européens condamnés à mort à Bagdad. Il compte porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Wilson Fash, notre correspondant à Erbil en Irak. Les vols et départs depuis l'aéroport de Hong Kong sont annulés aujourd'hui, conséquence d'une manifestation géante se déroulant dans le hall des arrivées. 5000 manifestants rassemblés à l'aéroport international de Hong Kong pour demander plus de démocratie. Un peu plus tôt dans la journée, la compagnie hongkongaise Cathay Pacific, sous pression de la Chine, a menacé de licenciement ses salariés qui seraient soutiens ou participants des manifestations qui se déroule actuellement sur l'île. Les explications de notre correspondante sur place, Angélique Forger.
Voici ce qu'indiquent les panneaux d'affichage et les haut-parleurs ici à l'aéroport de Hong Kong. Plus aucun avion ne décolle, plus aucun avion n'atterrit, sauf ceux qui sont déjà en vol. Depuis cette annonce, j'ai vu beaucoup de manifestants quitter les lieux. Ils sont bien moins nombreux qu'il y a quelques heures, mais ils prononcent toujours les mêmes slogans. Libérer Hong Kong soit forte. Sur certaines pancartes, j'ai pu lire « Nous sommes hongkongais, nous ne sommes pas chinois ». En fait, cet aéroport, ils l'occupent depuis vendredi déjà, mais ils sont venus beaucoup plus nombreux que ces 3 derniers jours, car ce week-end, on a assisté à un durcissement de la répression policière. des forces de l'ordre ont tiré hier à bout portant des balles en caoutchouc dans le dos des manifestants. Une jeune infirmière a eu l'œil blessé et des policiers ont roué de coups des personnes au sol. Des vidéos qui circulent en masse sur les réseaux sociaux ici à Hong Kong. Mais visiblement, ces violences ont ravivé les motivations des manifestants. Pourtant, ils le savent car Pékin les a prévenus. Si la contestation ne s'éteint pas, la répression sera plus forte.
Et le gouvernement chinois intensifie même verbalement sa dénonciation des manifestations. Aujourd'hui, il dit voir des signes de terrorisme derrière cette contestation qui s'exprime maintenant depuis plusieurs mois. Nouvel épisode dans cette guerre commerciale que se livrent actuellement Séoul et Tokyo. La Corée du Sud déclare aujourd'hui qu'elle va retirer le Japon d'une liste blanche de pays qui ont droit à des avantages commerciaux. C'est une réplique faite à une annonce du gouvernement japonais d'il y a 10 jours. Le Japon parlait de retirer Séoul de sa liste des partenaires de confiance. Au cœur du conflit entre les deux pays se trouve un ancien contentieux. Séoul réclame notamment à Tokyo des indemnisations pour ses ressortissants soumis à un régime de travail forcé dans des entreprises japonaises durant la Seconde Guerre mondiale. En Italie, combien de temps reste-t-il à vivre au gouvernement de Giuseppe Conte depuis que le chef de la Ligue et ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a rompu avec ses anciens alliés du mouvement 5 étoiles? La question va être débattue cet après-midi au Sénat. Cet après-midi, les chefs de groupe doivent se réunir pour décider quand voter la motion de défiance déposée par Matteo Salvini contre le Premier ministre. Point sur la situation avec Antonino Gallofaro.
Les temps de cette crise pourraient totalement échapper à l'homme qui l'a provoqué. Le problème pour le chef de la Ligue, Matteo Salvini, c'est que dans les chambres, il est en minorité. Si ses intentions de vote frôlent cet été 40%, ses élus ne représentent en réalité que 17% du législatif. Le leader de l'extrême droite italienne devrait donc devoir s'appuyer notamment sur Silvio Berlusconi, qui pourrait avoir un rôle déterminant dans cette phase. L'actuel ministre de l'Intérieur voudrait que la motion de défiance soit votée cette semaine, avant la mi-août, pour se rendre aux urnes le plus tôt possible, au mieux en octobre. C'est son objectif, capitaliser sa popularité pour gouverner seul, sans son encombrant partenaire de coalition, le mouvement 5 étoiles. Mais la formation anti-système risque de vouloir elle aussi dicter ses temps. Les 5 étoiles veulent qu'avant une hypothétique élection, soit votée sa réforme constitutionnelle pour réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Et il ne faut pas oublier que c'est elle qui a remporté les dernières élections législatives de 2018. Elle pèse près d'un tiers des élus, soit le double de la Ligue de Matteo Salvini. Mais quoi qu'il arrive, le dernier mot reviendra au président de la République, Sergio Mattarella. Il remplit le rôle d'arbitre dans ce genre de crise. Quand le Premier ministre n'aura plus la confiance du Parlement, il ira remettre son mandat à la plus haute charge de l'État. Mais avant de dissoudre les chambres, ce dernier vérifiera s'il existe une majorité alternative, car le but reste quand même que la législature arrive à son terme en 2023.
Antonino Gallofaro. La police norvégienne retient la qualification d'acte terroriste à l'encontre du jeune homme qui a ouvert le feu dans une mosquée des environs d'Oslo sans faire de victime. C'était samedi dernier. L'assaillant présumé exerce pour le moment son droit au silence et refuse de répondre aux questions. Selon les enquêteurs, il disposait de plusieurs armes à feu. Il a exprimé sur Internet des opinions d'extrême droite opposées à l'immigration. Il est également soupçonné d'avoir tué sa demi-sœur. C'est donc le candidat de droite Alejandro Giammattei qui est élu à la présidence du Guatemala. L'annonce a été faite cette nuit par le tribunal électoral du pays. La majorité est écrasante. Alejandro Eduardo Giammattei est élu avec près de 59% des suffrages devant l'ex-première dame Sandra Torres qui a reconnu sa défaite avec 41%. Giammattei, ancien fonctionnaire du secteur public, âgé de 63 ans et chirurgien qualifié, avait échoué lors des 3 précédents scrutins. Il va prendre ses fonctions en janvier pour s'attaquer aux différents problèmes que rencontre ce pays de 17 millions d'habitants. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Au programme, lutte contre la pauvreté, contre l'insécurité et contre la corruption.
Ah oui, vous savez, le nouveau président devra réussir là où ses prédécesseurs ont tous échoué. Il devra faire reculer la corruption dans un pays qui est gangréné par ce fléau depuis des années et des années. Aussitôt élu, il l'a en tout cas promis en déclarant « Nous allons lutter contre la corruption dès le premier jour ». Mais c'est sur sa façon d'y arriver qu'on peut se poser des questions. Pour l'instant, les choses sont encore un peu floues. Le futur chef de l'État prévoit de créer des institutions anticorruption avec l'aide de la communauté internationale. On notera toutefois que ce genre d'institution existe déjà. Corruption, mais aussi pauvreté. Elle concerne 59% de la population. Le Guatemala a une croissance de 3%, ce qui est plutôt bien la meilleure croissance d'Amérique centrale. Mais voilà, la répartition des richesses ne se fait pas. 11% de cette richesse provient d'ailleurs de l'argent envoyé envoyés par les Guatémaltais qui ont émigré aux États-Unis. Une pauvreté qui entraîne aussi de la violence, beaucoup de violence, à cause des gangs et trafiquants de drogue qui se disputent certains territoires. Le taux d'homicide est de 22 pour 100 000 dans les plus violents au monde. Le nouveau président envisage la peine de mort pour certains criminels. Enfin, dernier sujet qui s'est invité durant la campagne d'ailleurs, celui d'un accord avec les États-Unis pour limiter l'immigration. Il est prévu que le Guatemala serve de zone tampon pour les immigrés qui voudraient rejoindre les États-Unis. Le projet divise le pays et devrait se retrouver en haut de la pile des dossiers à traiter en urgence en janvier, quand le nouveau président Giamatei prendra officiellement ses fonctions.
Merci à vous, Nathanaël Charbonnier. La France veut se saisir de l'affaire Jeffrey Epstein. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, demandent l'ouverture d'une enquête, alors que les investigations américaines mettent en lumière justement des liens avec la France. On rappelle que Jeffrey Epstein a été inculpé le 8 juillet dernier pour exploitation sexuelle de mineurs et pour association de malfaiteurs en vue d'exploiter sexuellement des mineurs. La mort du milliardaire ce samedi en prison met fin au procès qui était prévu en 2020. On attend toujours les résultats de l'autopsie. C'était il y a 20 ans exactement et l'action est depuis devenue symbolique. Le 12 août 1999, José Bové et 300 de ses camarades paysans, éleveurs, syndicalistes démontaient le chantier du McDonald's de Millau dans l'Aveyron. Un coup de sang contre les règles du commerce international. L'OMC venait alors d'autoriser les États-Unis à prendre des sanctions économiques contre l'Union européenne qui refusait d'importer du bœuf dopé aux hormones. Les images ont marqué et elles ont incarné le combat contre la mondialisation. Delphine Evenou.
La cible, murs, portes, tuyaux, enlevés méticuleusement, la plupart des manifestants sont des éleveurs de brebis venus défendre leur Roquefort haussé taxé par les États-Unis. Parmi eux, main dans la poche, micro dans l'autre.
C'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde.
José Bové devient une figure de l'altermondialisme français naissant. Quelques jours plus tard, il se présente à la juge d'instruction pour rejoindre quatre camarades mis en prison.
Allez en prison, ça vous fait peur ?
Oui, ça me fait peur, mais je suis prêt aujourd'hui à l'accepter, et ma famille aussi.
Une aubaine sourit malicieusement Léon Maillet, l'un des incarcérés d'alors.
On s'arrêtait le manif de plus comme d'autres, mais la juge fait nous mettre en prison, mais ça multiplie par 100 une action locale.
Les soutiens sont massifs. José Bové passe 19 jours en détention, sans regret, dit-il aujourd'hui.
On a permis de faire prendre conscience comment des accords internationaux pouvaient remettre en cause la vie quotidienne.
Les paysans remportent aussi le combat contre les OGM, mais ils s'inquiètent toujours des accords de libre-échange.
L'accord du CETA, c'est dramatique sur la question agricole. Maintenant, ça risque d'être l'accord de libre-échange avec le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud. La bataille a été commencée, elle n'est pas terminée, il faut au contraire l'accélérer.
Les jeunes reprennent le flambeau, salue l'ex-député vert qui se dit disponible pour donner un coup de main.
Un reportage signé Delphine Evenou. Résoudre le problème des déserts médicaux, voilà un défi auquel tous les pays européens sont confrontés. Il faut pallier le manque de médecins tout en gagnant en efficacité. Une des pistes suivies, c'est le développement de la télémédecine. Cela se résume souvent à la mise en relation via l'ordinateur des médecins avec des patients. En Allemagne, une douzaine d'expérimentations sont actuellement menées sur tout le territoire. Le service d'urgence de Straubing, en Bavière, teste justement cette méthode depuis l'été dernier. Dans cette ville à côté de la frontière tchèque, un service d'urgence complet avec 21 ambulances est équipé par la télémédecine. Reportage de David Philippot.
Le 112 a été appelé pour une chute dans l'escalier d'une entreprise. Une fois le patient transporté dans l'ambulance, la communication est permanente entre l'urgentiste et le secouriste Jürgen Kohl qui jongle avec les outils high-tech.
Avec ce stéthoscope, par exemple, je peux, par le Wi-Fi, retransmettre au docteur les battements du cœur ou le souffle du patient en direct. Et il peut écouter en même temps.
À l'autre bout de la ville, devant 6 écrans d'ordinateur, le médecin de permanence dirige les secours, parfois 2 ou 3 équipes en même temps. Bettina Schmeller, urgentiste.
Quand tout va bien, le patient reçoit son médicament en 5 minutes. Quand il faut parfois plus de 20 minutes pour que le médecin arrive sur place, surtout dans la campagne reculée, ce sont 20 minutes précieuses de gagner.
Le ministère bavarois de l'Intérieur qui pilote ce projet doit décider à la fin de l'été s'il est maintenu et le cas échéant étendu au reste de la région. L'obstacle principal, hormis le coût des équipements, c'est la couverture internet honnête, souvent déplorable dans la campagne allemande.
David Philippot. Cet après-midi, il y a des risques d'averses un petit peu partout sur le pays, parmi les départements épargnés qui auront du beau temps, le Gard, l'Hérault, le Finistère et le Bas-Rhin. Côté température, les maximales varient de 18 à 24 degrés en général, 25 à 32 sur le sud-est et jusqu'à 35 en Corse du Sud. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue. Il a été réalisé à la technique par Laurie Vachon.